CFM Villefranche, le mag.
Allez, vous venez nous rejoindre, c'est le mag. Bon début de semaine, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue les lundis, on a deux propositions. On parle de médecine traditionnelle chinoise, de réflexologie plantaire, de philosophie, de pharmacopée. Il y a peu de pourpiers, de griffes de chat et de plantes aromatiques et médicinales. Et il y a des passerelles entre Didier et Waldo. La semaine dernière, c'était Waldo. Bah, cette semaine, c'est Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. Vous chantez plus que jamais au pistil des fleurs en ce moment. C'est l'explosion totale, hein. Faut bien le dire.
Il n'y a pas que moi, j'ai les abeilles aussi
oui,
en ce moment.
Hein, oui, vous avec qui vous cohabitez, évidemment, des hommes, des plantes et de la biodynamie. Rendez-vous bimensuel. Il y a 15 jours, c'était voyage sous nos pieds et on s'intéressait au sol.
Au sol,
et,
oui.
Et à la vie du sol, le ver de terre, évidemment, bah, fait partie d'un auxiliaire incontournable et un indicateur de la richesse d'un sol. Pas de ver de terre, faut s'inquiéter quand même.
Oui, oui, totalement, oui, oui, parce que on avait vu, bon, il enrichit le sol puisque c'est dans ses déjections, il y a 4 ou 5 fois plus d'éléments tels que l'azote ou la potasse. Que dans le sol lui-même, quelque part. Donc, ça fait partie des mystères de la nature, comme quoi il y a des animaux qui fabriquent des éléments, en fait. Oui. On a l'impression, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est comme la poule, en fait. La poule, les quantités de calcaire, de calcium qu'elle donne avec ses œufs,
les coquilles,
oui. Avec les coquilles d'œufs, c'est d'où vient tout ce calcaire? Parce que même si elles sont dans un sol qui n'est pas calcaire, si elles sont sur le Sénégal, oui. On a une quantité. Donc c'était, il y avait un scientifique dans les années 50, je crois, je me rappelle plus son nom, qui avait travaillé là-dessus et parlait de transmutation biologique, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui seraient capables de transformer certains éléments en d'autres éléments, chose qu'on ne sait faire en laboratoire qu'au niveau
des petites usines
nucléaires, ouais. Disons, ouais. Où on peut changer des éléments en d'autres éléments, et il semblerait que, oui, c'était Kervan, non, je me rappelle plus ce nom de ce scientifique qui avait travaillé là-dessus. Donc les vers de terre, c'est un peu la même chose. On pourrait penser qu'ils fabriquent des éléments, parce que d'où vient tout cet azote
Une petite usine, j'allais dire sur pattes, mais non, pas du tout, pas du tout, du tout.
Ce sont des usines, ce sont des petites usines naturelles, quelque part, et qui ne polluent pas.
Allez, on va y revenir dans un instant, le sol, les vers de terre, etc., etc. Petite question, en marche, si on met du ver de terre dans un récipient avec des marcs de café et des coquilles d'œufs, un peu d'eau, on secoue, ça fait un bel engrais ou pas?
Il y a sûrement des choses à découvrir.
J'aime les expériences. Est-ce qu'en marge de l'intervention autour de la vie sous nos pieds, il y aurait quelque chose à dire, un quoi que ce soit à dire en ce début mai
En ce début mai, on a eu une fin avril où en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça n'a pas été vraiment très très vrai cette année. Il a fait quand même assez chaud. Une très belle floraison d'aubépine, par exemple. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une floraison d'aubépine comme ça, parce que l'aubépine est très sensible aux variations de temps. Et là, il y a des buissons d'aubépine d'un blanc éclatant. Et les abeilles, j'en discutais avec des amis apiculteurs là, de la région, qui disaient que les abeilles étaient en train de travailler dans l'aubépine là, de manière incroyable. Et puis, ils parlaient aussi de l'érable. Les érables sont en fleurs. Les chênes
ont
fleuri de manière... exubérante. Donc là, on était vraiment dans une tendance fleur qui n'a pas été perturbée par de la pluie, par des coups de froid la nuit. Donc, on a vraiment un printemps très, très floral.
Allez, des hommes, des plantes et de la biodynamie, une petite respiration musicale et on va revenir à la thématique d'il y a deux semaines dans le prolongement de Voyage sous nos pieds. C'est d'ailleurs un film documentaire que, oui, que vous aviez vu, hein, Didier.
Totalement.
Des plantes, des hommes et de la biodynamie. Rendez-vous bimensuel animé par Didier Vallet. Aujourd'hui en studio, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. On poursuit à la poursuite du ver de terre une nouvelle fois aujourd'hui et voyage sous nos pieds. Deuxième épisode.
Oui, oui. Mais avant, tu vas avoir un sourire à ta vie parce que je voudrais faire une petite digression quand même avant d'aborder les sols. Parce que tout à l'heure, tu parlais, on alterne réflexologie plantaire, médecine chinoise et puis les plantes.
Pharmacopée, oui, pourpier. Waldo m'a dit, tu demanderas à Didier pour le pourpier. C'est une plante totalement ignorée, un peu invasive, mais qui a plein de propriétés apparemment. Farcie,
oui,
d'oméga.
En tout cas, c'est une belle plante alimentaire.
Oui, 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 oui.
En salade, c'est très bon. Voilà. Et puis, comme toutes ces plantes assez invasives, c'est diurétique, c'est pour ça permet d'éliminer. Donc, c'est pour ça que dans les salades, c'est très bien d'en utiliser aussi.
D'accord.
Et par exemple, en parlant de réflexologie plantaire, il y a une plante. Je voyais une petite vidéo là-dessus. Il y a une plante qu'on utilise régulièrement dans la cuisine, qui est le laurier. Et le laurier, on va acheter ça dans les bouquets garnis. La plupart du temps, les gens ne l'utilisent que pour la cuisine. Or, c'est une plante médicinale magnifique. On vient de la distiller, là, au jardin, nous. Il y a énormément d'huile essentielle dedans.
L'ordinaire.
Ça a une odeur très, très forte, très, très prenante. Mmh. Et je voyais une vidéo d'un monsieur chinois qui disait En réflexologie plantaire, c'est un petit peu comme l'acupuncture, le pied, on a aussi l'auriculothérapie avec l'oreille, c'est la même chose. Il y a différents points au niveau de la plante des pieds qui correspondent à chaque organe dans le corps. Et il disait, il faut, quand on a des douleurs, quand on n'est pas bien en forme, ou des choses comme ça, on met 3 feuilles de laurier sèches dans les chaussettes, on dort avec des chaussettes, et on met ça toute la nuit. Et le laurier, la feuille de laurier contient énormément d'huile essentielle qui vont, au cours de la nuit, stimuler les points de réflexologie plantaire, ces points d'acupuncture, on pourrait dire, et qui vont soigner l'organisme. Donc voilà,
plutôt des chaussettes...
que de le mettre dans la soupe, là on le met dans les chaussettes, mais en tout cas, en hydrolat par exemple, c'est super sur les abcès, c'est un très très bon anti-infectieux, le laurier. Donc,
laurier noble, hein,
c'est ça. Le laurier noble, hein, le laurier sauce, pas le laurier palme, ni le laurier cerise, il y a plein de formes de laurier. Mais là, le laurier noble là, qui a fleuri, et c'est juste au moment de la floraison qu'il faut ramasser les feuilles, parce qu'après la floraison, il va refaire les nouvelles feuilles, qui sont d'un vert très tendre, qui ne sont pas dures comme les feuilles qu'il y a là. Et celles-là, elles n'ont pas encore de propriétés médicinales. Il faut vraiment attendre qu'elles aient fait une saison.
Donc, des propriétés voilà, de style. Stimulant intellectuel aussi, non ? En olfactothérapie, le laurier noble, je crois.
Oui, en tout cas, l'odeur est très, très, très stimulante au niveau de l'éveil.
Ouais.
C'est vraiment. J'ai encore, on l'a distillé il y a plus d'une semaine, et j'ai encore toute l'odeur là, dans la salle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui éveille la conscience, un peu. Donc voilà, bon maintenant
petite
on va...
parenthèse, mais on s'habitue.
Mais bon voilà, c'était pour rebondir sur ton introduction avec les passerelles qu'il y a, parce que en fait il n'y a pas médecine chinoise, médecine occidentale, ceci, cela. Il y a sans arrêt des passerelles. Il faut pas enfermer dans les tiroirs. Alors, les plantes qui sont utilisées par la médecine chinoise, bien sûr, les Chinois n'ont pas les mêmes plantes que nous. Donc, pour en revenir à nos sols, ce beau temps, les abeilles sont en plein travail. Mais il n'y a pas que les abeilles, les jardiniers, ont des fourmis dans les dans les jambes, dans les mains. Il fait tellement beau, mais c'est presque sec même en surface. Quand on fait des semis, il faut pratiquement arroser pour que les graines germent. Mais en tout cas, là, je voudrais vraiment m'adresser aux jardiniers. Avant toute chose, il faut vraiment avoir un sol impeccable. Un sol impeccable, ça veut dire un sol vivant, un sol dans lequel il va y avoir beaucoup de vers de terre, oui, c'est vrai. C'est là qu'on voit aussi la richesse d'un sol, mais il n'y a pas que des vers de terre, il y a plein de petits insectes, il y a des champignons, on avait parlé de tout ça, il y a des bactéries aussi. Et pour parler des bactéries, alors... Souvent, en santé, en médecine, oh là là, la bactérie, tout de suite, on pense à quelque chose, à des maladies. Alors oui, il y a des bactéries pathogènes et des bactéries non pathogènes. Pathogènes, c'est elles apportent pathos, elles apportent une maladie, un dysfonctionnement. Mais sans bactéries, la vie ne serait pas possible. Il faut savoir que elles sont là justement pour modifier. Alors dans le sol, elles sont là pour transformer les matières organiques, pour ainsi de suite. Dans le compost, on va avoir tout ce travail des bactéries qui va transformer la matière organique fraîche en un humus quelque part. Alors en parlant de compost, alors souvent le jardinier, bien sûr, c'est contrairement à l'agriculteur, le jardinier va faire un compost de matière végétale. très souvent. À moins qu'il ait des animaux, ça c'est un peu arrivé. Mais l'agriculteur, l'éleveur de vaches qui va sortir son fumier, lui, il a que de la paille et des déjections animales, quelque part. Que ce soit... alors, on en parlera peut-être une prochaine fois, suivant l'animal, suivant une vache, un compost fait avec du fumier de vache ne sera pas la même chose qu'avec du fumier de cheval, qu'avec du fumier de mouton, qu'avec du fumier de poule, de porc. Ils auront des qualités différentes. Dans le temps, justement, on a beaucoup de pigeonniers dans nos régions, et les gens, ils avaient les pigeons pour récolter de la colombine. Et c'est excrément des pigeons qu'ils utilisaient beaucoup dilués pour mettre dans la vigne, pour enrichir le sol au niveau de la vigne. Donc, maintenant, il reste des pigeonniers, mais quelquefois, on en a fait des pièces d'habitation où il n'y a plus beaucoup de pigeons dans ces pigeonniers, dans nos vieilles bâtisses. Quand on met un fumier de vache quelque part, bon, faire un compost, ça veut dire c'est pas un tas de fumier, il faut que ça soit aéré, il faut qu'il y ait de l'air. Alors pourquoi il faut qu'il y ait de l'air? Parce que les bactéries, les bonnes bactéries, disons, celles qui ne sont pas pathogènes, sont aérobies, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'air pour vivre, pour travailler. Donc il y a des bactéries aérobies et des bactéries anaérobies. An, c'est le préfixe privatif, hein, comme analphabète. Les bactéries anaérobies, elles vont se faire, par exemple, quelquefois au cœur d'un tas. Si le tas est trop gros, il n'y a plus d'air qui rentre. Et puis, il faut que le tas ait été aéré, donc il faut qu'il y ait suffisamment de paille pour que l'air puisse rentrer au travers de la paille. C'est creux, donc ça peut laisser rentrer l'air. Et quand le tas est trop tassé ou qu'il n'y a pas assez de paille, il se forme au centre ce qu'on appelle un beurre. C'est une espèce de matière noire, toute gluante, qui est due à des fermentations anaérobies. Parce qu'il n'y a pas et en fait, ce beurre qu'il y a, c'est mieux de ne pas le mettre dans le sol, parce qu'on apporte des bactéries pathogènes, on apporte des bactéries anaérobies dans le sol qui vont être contre le vivant, quelque part, qui vont plutôt apporter des processus morbides que des processus de santé, de bonne santé. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire... Bon, faudrait explorer plus profondément toutes les bactéries qu'il y a, mais c'est vraiment ces deux choses qui sont importantes. Il faut que le sol soit aéré et pour que ces bactéries, il y ait de l'air. Donc, l'aération du sol, ça se fait... Quand vous travaillez le sol, les jardiniers, alors très souvent, c'est bien pratique. On a une motobineuse, là, un motoculteur qui a des fraises, hein, ce qu'on appelle des fraises, là, des espèces de pièces métalliques qui tournent, qui rendent la terre très, très souple, mais en fait... on détruit un petit peu, on fait rentrer de l'air, mais on détruit un petit peu toute cette couche dans laquelle il y avait plein de bactéries, de vers de terre. Alors les vers de terre, quelquefois, ils sont transformés un peu en purée par les fraises, surtout si ça, on le fait assez vite. Et très souvent, les jardiniers ont des petits motoculteurs, c'est-à-dire des motoculteurs avec un moteur pas très puissant, et si on le met pas à tourner très vite, ça cale, ça souffre. Donc on met plein gaz, on fait tourner les fraises très vite, on a un travail super, la terre est toute fine, mais la vie est un peu détruite. Et en plus, Les fraises, en tournant très vite, elles vont faire à peu près 10 ou 15 cm de profondeur de terre. Et en dessous, ça va faire ce qu'on appelle une semelle, c'est-à-dire ça va lisser la terre en dessous, surtout si c'est un peu humide. Et on va avoir quelque chose de dur dans lequel les vers de terre ne vont pas pouvoir descendre. Oui. Donc on va avoir on va couper les échanges entre le sous-sol minéral et la terre végétale au-dessus. Alors, il y a des moyens. Alors, bien sûr, quand on a un gros motoculteur, on peut utiliser des fraises, mais qui tournent très doucement pour essayer de moins chambouler toutes les couches. Et puis aussi, le travail de surface est intéressant. Alors, sans faire de publicité, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle La Fabriculture.
Ah oui. Voilà. Vous en aviez déjà parlé, Didier.
Voilà,
j'en avais
déjà parlé, parce que c'est vraiment un outil de travail des sols que j'affectionne particulièrement depuis que je m'en suis acheté un. Donc La Fabriculture, c'est une petite entreprise qui est à Moirazès. Donc, qui font vraiment du travail exceptionnel. Ils sont créateurs de machines agricoles. Alors, il y a cette machine. C'est pas vraiment une machine parce que elle est manuelle, oui. Qui s'appelle la campagnole et qui permet de travailler le sol en surface sans détruire toutes les couches et sans faire de semelles. Et c'est vraiment, et qui n'est pas dur à faire physiquement, quelque part. Hein. J'ai un certain âge et je suis capable de faire des très grandes surfaces avec ça, sans trop de problèmes. Alors, si on a encore le temps, parce que le temps passe très vite, je voudrais redonner un petit truc pour les jardiniers aussi, puisque actuellement, ça démange de faire des semis. Il n'y a pas que le sol qui est important pour avoir des belles plantes. Il y a la graine. Il y a la graine et il faut savoir que... Alors j'entendais une émission, c'était une association qui s'appelle Triticum. Triticum, c'est le nom latin du blé. C'est une association qui, en région parisienne, je crois, qui travaille sur la sauvegarde des vieilles, des anciennes variétés de blé. Ouais. Et comme Cocopelli le fait avec beaucoup de légumes. Et le monsieur disait, je crois, il y a un siècle, il devait y avoir 10 000 variétés de blé en France. Il en reste quelques dizaines. Et toutes les variétés de blé qui ont été créées, qu'on utilise maintenant, elles ont été créées sur des critères de panification, c'est-à-dire pouvoir lever le mieux possible, pour avoir le pain le plus gonflé possible, mais avec des gluten auxquels on est devenu, beaucoup de gens sont devenus allergiques quelque part. On a modifié les variétés de blé et pour qu'ils aient plus de gluten, et quelque part on a développé en partant sur cette sélection seulement sur une quantité d'un composant, on est devenu allergique, beaucoup de gens sont devenus allergiques au gluten. Et peut-être, alors ça j'ai pour moi, par exemple, aussi, on a beaucoup d'allergies aux produits laitiers aussi. Mais on a sélectionné les vaches sur le rendement en lait.
On a un capital enzymatique aussi, non?
On a un capital enzymatique.
Donc, on l'a épuisé, on peut avoir des difficultés de digestion.
Oui. Et peut-être aussi que nos enzymes n'ont pas encore eu le temps de muter pour être capables d'accepter ces nouveaux gluten, voilà. Donc, les semences sont vraiment très importantes parce que si vous achetez une semence dans le commerce hybride ou quelquefois même à moitié OGM, elles sont... elles vont donner leur potentiel selon une forme de culture. Et si vous utilisez, vous êtes dans votre jardin, que vous avez vous faites de manière un peu bio et des choses comme ça, leur potentiel ne va pas pouvoir s'exprimer. Leur potentiel, il est fait pour s'exprimer avec des engrais, avec des pesticides, avec ceci, oui, avec cela. Oui. Donc, surtout, essayez de trouver des graines. Alors, je dirais même des graines bio. Ouais, il y a des graines bio qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, dans les magasins agricoles, mais déjà, elles ont été transformées. Alors, si vous allez retomber simplement, si j'ai 30 secondes, non, je n'ai pas 30 secondes.
On reviendra sur les graines dans deux semaines, très oui. certainement, parce qu'il y a plein de choses à dire.
On en reparlera.
Merci Didier, des hommes déplantés de la biodynamie tous les 15 jours sur l'antenne de CFM. Merci, à dans 15 jours.
À dans 15 jours, David.
CFM Villefranche, le mag.